Alors, je suis déjà venu une fois au Luxembourg, il y a une bonne dizaine d'années, je crois, et je suis ravi de m'y retrouver à nouveau ce soir pour vous parler encore du sujet des vaccinations, pour lequel il y a toujours quelque chose de nouveau. Alors, cette diapositive, pour une présentation plus rapide, cette diapositive vous dit qui je suis. J'étais donc professeur de biologie dans les classes préparatoires aux grandes écoles. C'est une filière qui est assez typique de la France, c'est-à-dire que pour préparer les futurs vétérinaires, les futurs ingénieurs, quelle que soit la filière, eh bien, il y a un concours d'entrée dans ces écoles et ces concours se préparent dans des classes particulières, dans les lycées, qu'on appelle pour cette raison des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, moi, j'ai été effectivement professeur dans ces classes qui préparaient dans un premier temps à l'Institut national agronomique et d'autre part, pendant les 15 dernières années de ma carrière, la préparation aux écoles nationales vétérinaires. Bien, ceci pour ce que je suis. Ce que je ne suis pas. Alors, premièrement, j'ai un défaut majeur au départ, je ne suis pas médecin. Alors, beaucoup me disent, de toute façon, vous n'êtes pas médecin, vous n'y connaissez rien. Alors, ce à quoi je réponds, la médecine n'est pas une science, c'est un art. Mais la médecine repose sur une science qui est la biologie. Par conséquent, en tant que biologiste, je me sens tout à fait autorisé à parler de vaccination. Ce que je ne suis pas non plus, c'est membre de secte. Pourquoi je tiens à dire ça? Je ne sais pas ce qu'il en est au Luxembourg ou dans les pays voisins, Belgique, Hollande ou Allemagne, mais c'est qu'en France, on a une chasse viscérale aux sectes. On en voit partout. Et si je précise ça, c'est parce qu'il y a quelques années, à la suite des dégâts provoqués par la vaccination hépatite B en France, Monsieur Kouchner, qui était le docteur Kouchner, qui était à l'époque ministre de la Santé, a cru bon de dire que de toute façon, toute information, un tant soit peu critique sur les vaccinations, ne pouvait provenir que de sectes. Eh bien non, je suis désolé, je suis simplement scientifique et tout ce que je vais vous dire est tiré de publications scientifiques et médicales. Donc, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Alors, le titre de la conférence donc reprend le titre de mon livre qui vient de paraître cette année, L'apport des vaccinations à la santé publique, la réalité derrière le mythe. Alors, quel est le mythe actuel? Ce qu'on vous dit habituellement, c'est tout simplement que les vaccinations ont fait régresser les épidémies, voire même les avoir fait disparaître, et d'autre part, elles sont sans danger. La réalité, malheureusement, n'est pas tout à fait la même. Et pour en avoir une idée, pour apprécier l'impact des vaccinations sur la santé publique, eh bien, il faut établir deux rapports dont on parle souvent, mais qu'on étudie rarement, qui sont le rapport bénéfice-risque, d'une part, et l'autre part, le rapport coût-bénéfice. Eh bien, je vais essayer de vous en dire deux mots maintenant. En ce qui concerne le rapport bénéfice-risque, évaluer les bénéfices. Quel a été le rôle des vaccinations dans l'évolution des maladies infectieuses? Comment ont-elles régressé, voire même disparu en ce qui concerne la variole, comme on va le voir? Eh bien, pour évaluer les bénéfices, nous allons faire un rapide parcours dans les maladies infectieuses essentielles, principales. On vous parle beaucoup de la vaccination parce que la variole a disparu et on s'imagine qu'on va faire disparaître toutes les vaccinations de la surface du globe parce qu'on attribue la disparition de la variole à la vaccination. Eh bien, ça, c'est une légende qu'il faut éradiquer. Parce que la variole n'a pas été éradiquée par les vaccinations. Alors comment? Je vous résume très rapidement. Qu'est-ce qu'on dit actuellement couramment? Que c'était une maladie hautement contagieuse et qu'elle a été éradiquée grâce aux vaccinations. Eh bien, ces deux points sont faux. Il suffit de voir ce qu'en pense l'OMS. Dans le rapport qui a suivi l'éradication de l'OMS, comme vous voyez la référence en bas de l'image, eh bien, dans ce rapport, l'OMS écrit ceci. La variole n'était pas une maladie qui sévissait de façon simultanée et aléatoire dans de nombreux districts du pays, mais une maladie à propagation lente. Donc, pour une maladie très contagieuse, c'est contradictoire. La variole n'était pas aussi transmissible qu'on l'avait généralement cru. L'idée selon laquelle la variole, c'est moi qui ai mis en rouge, évidemment, hein, l'idée selon laquelle la variole provoquait souvent des épidémies foudroyantes se révéla sans fondement. Alors, comme à l'OMS, il y a quand même des gens qui réfléchissent. On s'est dit, si la maladie n'a pas cette importance, qu'en est-il des vaccinations? L'impact des vaccinations, bien dans le même rapport, l'OMS écrit ceci. Les campagnes des vaccinations reposant entièrement ou essentiellement sur la vaccination de masse furent couronnées de succès dans quelques pays, mais échouèrent dans la plupart des cas. Par conséquent, il ne faut pas attribuer la disparition de la variole à la vaccination. Mais alors à quoi faut-il l'attribuer ? Eh bien, comme je vous le disais, l'OMS a quand même des gens qui réfléchissent et on a changé de stratégie pour prendre ce qu'on appelle la stratégie de surveillance endiguement. Ça consiste en quoi ? Eh bien, à repérer les malades, première chose. Ensuite, repérer les contacts qui ont été avec le malade et les isoler, c'est-à-dire former une sorte de quarantaine pour voir s'il développait une fièvre, si cette fièvre était une fièvre éruptive et si ça pouvait être la variole. Et c'est de cette façon que l'on a éradiqué la variole. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit un porte-parole de l'OMS au journal Le Monde, bon, qui est le journal français qui est considéré comme un journal de référence. Et ce porte-parole disait, sur le plan stratégique, l'abandon de la vaccination de masse en faveur de la stratégie de surveillance endiguement revêtit une importance capitale. Avec ce type d'approche, on parvenait à faire complètement échec à la transmission, même lorsque l'incidence variolique était élevée, il y avait beaucoup de malades, et les taux d'immunisation faibles. Bien, c'est bien la confirmation de ce que je vous disais à l'instant, que ce n'est pas la vaccination qui a éradiqué la variole, c'est la stratégie de surveillance endiguement, qui n'est rien d'autre qu'une adaptation de la quarantaine d'autrefois pour la peste, par exemple. Alors, il y a toute une série de maladies pour lesquelles on peut réfléchir aussi sur l'impact des vaccinations, car l'OMS elle-même le dit dans ses écrits que le développement économique, avec tout ce qui va avec, évidemment, le développement, l'amélioration de l'habitat, de l'hygiène, de l'alimentation, tout cela a contribué de façon primordiale à la régression des maladies infectieuses. Alors, naturellement, au niveau socio-économique, ça peut être valable pour toutes les maladies, mais je dirais qu'il y a certains points qui sont plus spécifiques de telle ou telle maladie. C'est pour ça que je les ai un petit peu compartimentés. Tuberculose, rougeole, coqueluche. Tuberculose, elle ne doit rien à l'application du BCG. La régression n'a aucun rapport avec le BCG. En voici la preuve. Alors, je pourrais vous donner d'autres exemples, évidemment. Et ces deux courbes sont tirées d'un bulletin de statistiques de la santé en France et qui représentent l'évolution de la tuberculose en France et en Hollande. En France, la ligne du dessus, en Hollande, la ligne du bas. Naturellement, dans cette publication, il y avait tous les pays d'Europe. Mais j'en ai pris deux qui sont significatifs. Pourquoi ? Parce que ce sont, même si nous n'avons pas de frontières communes, nous avons un niveau économique comparable, un niveau d'hygiène, etc., tout à fait comparable. Et la différence, c'est que la Hollande n'a jamais appliqué la vaccination de masse par le BCG, alors que la France l'a appliquée à partir de 1950, là où vous voyez la petite flèche. Or, à la fin de la guerre, vous voyez, 1945, le taux de mortalité tuberculeuse était pratiquement le même en Hollande et en France, très légèrement supérieur en France, mais très peu. La France a vacciné, la Hollande n'a pas vacciné. 25 ans après la fin de la guerre, c'est-à-dire tout à fait à droite de la courbe. Excusez-moi, je vais prendre un petit pointeur. Si la pile veut bien fonctionner. Voilà. Ici, vous avez la Hollande, ici, vous avez la France. Mais vous voyez qu'il y avait une mortalité 7 fois plus importante en France qu'en Hollande. Et ceci malgré l'absence de BCG en Hollande et un BCG largement appliqué en France. Alors comment les Hollandais ont-ils fait ce que les Français ne sont pas arrivés à faire ? Bien malheureusement, je vais vous l'avouer, ce n'est pas très réjouissant pour les Français, ce devrait ne pas être très réjouissant, c'est parce que la France est malheureusement un pays d'alcooliques. Et je me souviens encore à l'école primaire, notre instituteur, je suis originaire d'un pays de vignobles, et notre instituteur nous disait l'alcoolisme fait le lit de la tuberculose. Et c'est tout à fait vrai. Les régions françaises les plus atteintes par la tuberculose sont les régions où l'on boit le plus. Alors je vais les citer, les régions. Vous n'en êtes pas, ça tombe bien. C'est l'Alsace, le Nord et le Morbihan, c'est-à-dire la Bretagne, enfin une partie de la Bretagne. Bien, Donc, vous voyez, le BCG n'a rien à voir là-dedans. Vous voyez, la régression du BCG n'a pas augmenté parce que quand on a commencé à vacciner en 1950, ici l'obligation date de 1950, eh bien la tuberculose avait régressé de 85% depuis le début du XXe siècle, sans vaccination bien entendu. La rougeole et la coqueluche, eh bien, ce sont des maladies d'enfance qui faisaient, en ce qui concerne la rougeole, 5000 morts au début du XXe siècle. Hein, c'était pas rien. Vous avez eu une régression, bon, avec des hauts et des bas, bien entendu. Alors, il y a deux petits trous dans la statistique, mais ça ne change rien quant à la régression globale de la rougeole. Et vous voyez qu'on a incité à la vaccination ici, en 1983. Or, ici, la rougeole avait diminué, le nombre de cas de rougeole avait diminué de 99,6%. Alors que pendant le même temps, la population française avait augmenté de 33%. Donc, vous voyez, c'était absolument pas un problème majeur de santé publique. Hein, à cette époque-là, en 1983, il devait y avoir environ 15 morts par an. Je suis d'accord, c'est 15 morts de trop. Mais la plupart du temps, ça survenait chez des sujets qui avaient par ailleurs d'autres déficiences. Hein, et c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Mais on ne peut pas dire que c'était un problème majeur de santé publique. D'ailleurs, à l'époque, dans les années 70-80, vous lisiez dans les revues médicales que la rougeole était une maladie tellement bénigne qu'il serait hors de question de vacciner tout le monde en France. Ça n'a malheureusement pas été suivi. Même chose pour la coqueluche. Vous voyez, la régression de la coqueluche jusqu'à la mise en place des vaccinations, une régression tout à fait comparable. L'importance particulière de l'hygiène. Encore une fois, l'hygiène, c'est valable pour toutes les... l'impact des vaccinations. Alors la typhoïde, ça va de soi, vous savez que ça se transmet par l'eau et ça a pratiquement disparu, enfin en grande partie tout au moins. Alors la poliomyélite et le tétanos sont deux problèmes un petit peu particuliers. La poliomyélite, c'est une histoire compliquée dans laquelle je ne vais pas pouvoir donner malheureusement tous les détails parce que des épidémies de poliomyélite, il s'en est produit au 19e siècle et au début du 20e siècle. Et elles étaient liées à des traitements médicamenteux. En particulier, tous les traitements des maladies vénériennes, en particulier, étaient traités avec des dérivés d'arsenic. D'autres maladies étaient traitées par des dérivés du mercure. Et tout cela provoquait des symptômes tout à fait comparables aux poliomyélites. Ensuite, dans les années 50, il y a eu de terribles épidémies aux États-Unis et également en Europe, bien sûr, et qui ont été liées au développement des pesticides. Seulement, l'ennui, c'est que aucune recherche approfondie n'a été faite pour voir pourquoi les pesticides provoquaient des dégradations du système nerveux conduisant aux paralysies de polio. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ces recherches? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que ceux qui étaient atteints de la polio portaient des virus particuliers et eux, on les a étudiés. Et à partir de ce moment-là, tout le monde a été content. Parce que l'industrie pharmaceutique s'est dit, chouette, il y a un virus, on va pouvoir l'atténuer, faire un vaccin, donc faire des bénéfices. Et de l'autre côté, l'industrie chimique était contente aussi parce que dans la mesure où on ne les accusait plus d'empoisonner la population, eh bien, ils s'en tiraient très bien. Vous voyez ? Alors qu'en réalité, alors ceci évidemment comporte les données pour la France, vous voyez, il y a eu une augmentation au début du XXe siècle, hein, il y avait très peu de polio, il y avait environ 204 polio par an, ça ce sont les cas de polio, hein. Il y avait environ 204 polio par an, c'était très très peu. Et puis ça a augmenté progressivement. Et avec une pointe en 1957, ici. Et puis après, une régression très rapide qui a commencé, vous le voyez, bien avant la mise en place de la vaccination en 1964. Vous voyez. Bon, on pourrait donner beaucoup plus de détails, mais je serai un peu pris par le temps après. En ce qui concerne le tétanos, c'est évidemment l'hygiène des plaies, puisque le tétanos, c'est une maladie due à un bacille qui est anaérobie, c'est-à-dire pour lequel l'oxygène est un poison. Et puis, le chlorure de magnésium oublié. Il y a en effet un médecin hospitalier en Charente-Maritime, c'est-à-dire dans l'ouest de la France, la bordure atlantique, qui, dans un hôpital d'une bourgade assez modeste, hein, qui s'appelle Saint-Jean-d'Angély, si vous connaissez, pas très loin de La Rochelle, eh bien, il avait trouvé que des injections intraveineuses de chlorure de magnésium guérissaient le tétanos sans avoir d'autres traitements. Malheureusement, ça a été oublié. Alors, ce que l'on dit sur le tétanos, souvent, c'est qu'il touche, il fait davantage de morts. La mortalité chez les hommes est plus faible que chez les femmes. Pourquoi ? Parce que les hommes étaient vaccinés au service militaire. Eh bien, ça aussi, c'est faux. Vous voyez ? Alors maintenant, évidemment, il y a très peu de morts par tétanos. Pour toute la France, il y a environ une quinzaine de morts par tétanos. Mais le chiffre est trop faible pour qu'on puisse dire qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Ce n'est pas significatif sur le plan statistique. Par contre, ces graphiques-là, j'ai pu les faire parce qu'à une certaine époque, ceci c'est dans les années vous voyez, 69 à 85, et bien dans les années 70-80, il y avait quand même en France entre 200 et 300 morts par an dus au tétanos. Et j'ai trouvé une statistique à partir de laquelle j'ai pu faire ce graphique, dans lesquelles les décès étaient répartis par tranche d'âge tous les 5 ans, vous voyez, de 10 à 15, de 10 à 14 ans, 15, 19, 20, 24, etc., tous les 5 ans, et ensuite répartis par sexe. Eh bien, il suffisait à partir de ces données de prendre la pyramide des âges qui vous donne pour chaque tranche d'âge l'effectif de la population. Et si vous faites le quotient, eh bien, vous vous apercevez que jusqu'à l'âge de 65 ans, à peu près jusqu'à 60 ans. Vous voyez, le trait bleu ou le trait rouge sont à peu près de la même taille. Tantôt, c'est le trait bleu qui est au-dessus, tantôt le trait rouge. Les hommes sont en rouge. Hein. Eh bien, vous voyez qu'à partir de 65 ans, contrairement à ce qu'on pense, il y a une mortalité qui est de plus en plus forte pour les hommes que pour les femmes. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de morts. Ça veut dire que la mortalité en fonction de la population est plus importante. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les hommes vivaient environ à l'époque 10 ans de moins que les femmes, c'est-à-dire que plus on avançait en âge, le tétanos est une maladie des personnes âgées, donc essentiellement 70-80 ans, eh bien plus on avance en âge, plus l'effectif des hommes est faible par rapport à celui des femmes. Donc avec le même nombre de morts, ben vous avez une mortalité chez les hommes supérieure à celle des femmes, contrairement à ce qu'on dit d'habitude. Déplacement des épidémies. Pardon. Développement d'épidémies en dépit des vaccinations. Alors, ça c'est aussi très net. Un élément très net, c'est la diphtérie. Alors, c'est encore ce que je vais montrer à partir des données de la France. Pourquoi je prends toujours la France ? Bah, parce que déjà c'est mon pays, puis en plus la France a un avantage. C'est que ça a toujours été un pays très centralisé. Paris aime bien voir ce qui se passe partout en France. Et pour ça, bah, il regroupe les statistiques. Donc on a beaucoup de statistiques en France dues à l'ensemble du pays en raison de justement cette centralisation, même s'il y a eu un certain relâchement dans les dernières années. Mais qu'est-ce qu'on a vu pour la diphtérie ? Ça c'est le nombre de cas de diphtérie depuis, pareil, le début du XXe siècle jusqu'en 1970 où la diphtérie a pratiquement disparu. Le début des vaccinations s'est situé ici, 1923, découverte du vaccin. 1931, on vaccine les hommes au service militaire, c'est-à-dire en gros la moitié de la population, hein, si on simplifie. 1938, vaccination obligatoire pour les enfants. J'en parle en connaissance de cause, parce que je suis un produit d'avant-guerre, et par conséquent, pendant la guerre, j'ai été, dans ces années-là, vacciné contre la diphtérie. Or, cette vaccination générale des enfants n'a pas empêché une montée en flèche de la diphtérie, pendant lesquels, en France, il y a eu 45 000 cas en 1943 et 1945. Et puis après, une régression très rapide. Alors, que disent les partisans des vaccinations ? Eh bien, ils disent, en 1945, il y avait 45 000 cas de diphtérie. On a vacciné, aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est vrai. C'est vrai. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la vaccination a commencé bien avant et que ça n'a pas empêché la crue épidémique. Et alors, où ça devient encore plus démonstratif, c'est si on prend les pays étrangers. De temps en temps, c'est utile de regarder ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est une étude danoise qui a été publiée en 1956 et qui a étudié l'évolution de la diphtérie dans les années 40 à 50, vous voyez, 1940, 45, 50, dans les pays du nord de l'Europe. Enfin, ils sont descendus jusqu'à la France. Alors, il n'y a pas le Luxembourg, je suis désolé, hein, mais la France est là. Et les autres pays, c'est Hollande, Finlande, Norvège, Suède, Danemark. Qu'est-ce que vous constatez ? Que dans tous les pays, la courbe a été la même. Une crue épidémique dans les années 40, une régression très rapide à partir de 1945. Seulement le problème, c'est que tous ces pays n'ont pas vacciné de la même façon. Il y a des pays qui ont beaucoup vacciné comme la France, des pays qui ont très peu vacciné comme la Suède et le Danemark. Et vous voyez que ce sont ceux qui, justement, ont eu le moins de diphtérie. Alors, donc, vous voyez, c'est un élément qui montre que la vaccination n'a pas eu d'impact sur la régression de la diphtérie. Alors, il y a maintenant des menaces majeures qui ont été inventées de toutes pièces. Il y en a deux. Il y a l'hépatite B et le cancer du col de l'utérus. Alors, en ce qui concerne l'hépatite B, c'est une vaccination qui a été lancée en 1994 en France sans base épidémiologique. C'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement quelle était la menace de l'hépatite B. Sa régression est due essentiellement à la peur du sida, parce que l'hépatite B et le sida, ça se transmet de la même façon. Et par conséquent, les mesures d'hygiène qui ont été prises pour éviter le sida, ça a retenti sur la régression de l'hépatite B. Alors, pourquoi je dis sans base épidémiologique ? Eh bien, tout simplement parce que, vous voyez, à une conférence de consensus qui a eu lieu en 2003, c'est-à-dire pratiquement 10 ans après la mise en place de la vaccination en France, eh bien, il y a eu une conférence de consensus, c'est-à-dire une réunion de grands pontes pour dire bon, voilà, sur quoi on peut être d'accord sur l'ensemble concernant la vaccination. Eh bien, l'un des professeurs de cette conférence a déclaré ceci. On ne dispose d'aucune mesure précise du nombre d'hospitalisations et de décès attribuables à l'hépatite B en France. Vous voyez, 10 ans après la mise en place de la vaccination, alors que 10 ans avant, on nous a dit c'est un problème majeur de santé publique. Monsieur Douste-Blazy n'avait pas hésité à dire à l'époque, il y a 100 000 nouvelles infections en France. En réalité, l'expérience a montré par la suite que c'est autour de 4 000, c'est-à-dire 25 fois moins. Voilà l'évolution de l'hépatite B. Ceci, c'est une étude qui a été menée dans la région lyonnaise. L'hépatite B, effectivement, avait quand même un certain impact, vous voyez, au milieu des années 80, 1986, ici. La vaccination du corps médical a commencé là. Et les grandes campagnes de vaccination des enfants, enfin des adolescents, a commencé ici. Or, à ce moment-là, vous voyez que l'hépatite B avait considérablement régressé sans vaccin, tout simplement par les mesures d'hygiène. Cancer du col de l'utérus. Alors, l'expression que j'ai mise en dessous, je l'ai trouvée dans une publication médicale que vous avez en dessous, là. Avoir réussi à créer un marché à partir de rien. Ça veut dire quoi ? Bien, ça veut dire que le cancer du col de l'utérus a une incidence qui n'est pas négligeable, bien entendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, par exemple, et c'est valable dans beaucoup d'autres pays, ce cancer est en constante diminution. La mortalité a été divisée par 2 en 20 ans, uniquement par l'examen, le suivi gynécologique des femmes. Et ce cancer est 5 fois moins fréquent que le cancer du côlon et 12 fois moins fréquent que le cancer du sein. Alors, ce qu'on a dit pour faire accepter ce vaccin contre le cancer du col, on a dit, oh, mais c'est le deuxième cancer féminin, sous-entendu, après le cancer du sein. Mais c'est faux. Enfin, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai si on prend l'ensemble de la planète. Parce que la grande majorité des cancers du col de l'utérus, ben, c'est malheureusement dans les pays du tiers-monde où le manque d'hygiène fait que cette maladie est beaucoup plus fréquente que chez nous. Vous voyez ? Donc, c'est pas du tout un problème majeur de santé publique. En Europe du Nord, on a réussi, notamment en Finlande, à réduire ce cancer de 80%. Et d'autre part, il faut ne pas céder à la peur. Pourquoi ? Eh bien, exactement comme pour l'hépatite B, les infections dues au papillomavirus, ici, elles régressent, c'est-à-dire que l'épithélium reste normal, dans plus de 90% des cas. Et c'est vrai aussi pour l'hépatite B. Dans 5 à 10% des cas, ça évolue vers une infection chronique, comme pour l'hépatite B. Et cette infection chronique présente 3 stades successifs qui sont de plus en plus graves, mais à chaque stade, il peut y avoir une régression spontanée, naturelle, qui est de 60% dans le premier cas, 40% au deuxième cas et 30% au deuxième cas. Évidemment, si on ne fait rien entre-temps, à partir du stade 3, on évoluera vers un véritable cancer. Seulement, vous comprenez bien que si ici, vous prenez 10% des infections au départ et qu'ensuite vous prenez 40% des infections du stade précédent, puis 70% du stade précédent, vous arrivez à très peu de choses. Par conséquent, ce n'est pas un problème majeur de santé publique. D'autant que si on vaccine les fillettes contre ces papillomavirus, il faudra quand même avoir le suivi gynécologique, c'est-à-dire qu'on aura une double dépense. En conclusion, eh bien, la régression des épidémies a souvent commencé bien avant la mise en place des vaccinations et ne s'est pas accentuée après. C'est le cas de la tuberculose, de la coqueluche, de la rougeole. Les vaccinations ont été mises en place en parallèle avec des mesures d'hygiène qui, elles seules, ont réduit la contagion. C'est le cas de l'hépatite B. Les vaccinations n'empêchent pas la survenue d'épidémies. Ça a été montré pratiquement pour toutes les vaccinations. La variole, la diphtérie, la polio, la rougeole, la coqueluche. Hein. Les vaccinations ont très peu influé sur la mortalité, ce qui est quand même le point essentiel. Je rappelle quand même que dans les milieux des homéopathes, on considère que les maladies infantiles, du type rougeole par exemple, eh bien, sont des maladies qui aident à la maturation du développement de l'enfant. Et quand le niveau de vie s'élève, eh bien, les maladies régressent de la même façon que les populations soient vaccinées ou non. Donc vous voyez que les bénéfices, si bénéfices il y a, il est certainement très mince. Qu'en est-il des risques ? Eh bien là, voici peut-être une des diapos la plus importante de tout ce que je vais vous raconter ce soir. Pourquoi ? Parce que les vaccins sont des vaccins standards qui sont adressés, qui sont injectés à des individus qui sont tous différents. Pour le comprendre, alors ne lisez pas trop ce qu'il y a parce que ça va vous perturber. Pour le comprendre, il faut savoir que le système immunitaire qui nous protège, qui nous défend, il est soumis, il n'est pas, c'est pas le maître à bord, il est soumis à un autre système qu'on appelle le système HLA. C'est un système qu'on appelle, c'est un système tissulaire qui a été découvert donc, notamment par les travaux du professeur Dossé en France. Il a d'ailleurs eu le prix Nobel pour cela. Ce sont tout simplement HLA, ça veut dire Human Leukocyte Antigène. Ce sont des molécules qui sont présentes sur nos globules blancs, hein, c'est-à-dire les leucocytes. Et c'est ce système qu'il faut respecter lorsqu'on fait des greffes d'organes. Vous savez, on ne peut pas greffer n'importe quoi à n'importe qui. On est obligé d'harmoniser le donneur et le receveur. On harmonise quoi ? Eh bien, on harmonise le système HLA. Alors, on ne peut pas avoir une harmonie parfaite, sauf si on a affaire à des vrais jumeaux. Mais il faut qu'il y ait le moins de différences possible. Pourquoi ? Bien parce que s'il y a une différence, le receveur, le système immunitaire du receveur considère la greffe qu'on lui apporte comme un corps étranger et par conséquent, il développe la réaction de rejet. Eh bien, pour les réponses immunitaires, quelles qu'elles soient, c'est la même chose. C'est le système HLA qui commande. Or, mis à part les vrais jumeaux, comme je le disais à l'instant, à la surface de la planète, nous sommes tous différents en ce qui concerne le système HLA. Vous voyez, tous différents. Et par conséquent, on sait dès le départ que des vaccins standards, qui sont les mêmes pour tout le monde, ne peuvent pas donner les mêmes résultats pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle, eh bien, vous aurez des bons répondeurs, des moyens répondeurs, des mauvais répondeurs, des non-répondeurs. On sait par exemple que pour l'hépatite B, il y a 15% de non-répondeurs. Et c'est encore plus si vous êtes fumeur, si vous êtes obèse et si vous prenez de l'âge. Donc, vous voyez, c'est faux de dire qu'on va appliquer la même chose à tout le monde et ça va marcher pour tout le monde. Alors, je vous ai mis l'histoire des émigrants hollandais. Il faut peut-être que j'avance rapidement. Surtout, faites-moi signe si vous croyez que je ne vais pas assez vite. L'histoire des émigrants hollandais, si, c'est intéressant, parce que d'autant qu'il y a peut-être des Hollandais parmi vous. Au XIXe siècle, il y a une cinquantaine de familles qui sont parties en Amérique du Sud pour fonder la Guyane hollandaise. Ils ont fait comme les Français, il y a aussi la Guyane française, et on appelle ça, la Guyane hollandaise, on appelle ça aujourd'hui le Suriname. Et les pauvres Hollandais qui sont débarqués là-bas, 2 mois après leur arrivée, épidémie de fièvre jaune, ça en tue 50%. 2 ans après, épidémie de typhoïde, qui en tue encore 20 ou 30%. Enfin, au bout de 2 ans, 60% de la population émigrée avait disparu. Et au XXe siècle, dans les années 60, autant que ma mémoire soit fidèle, on a recherché quels étaient les groupes HLA des descendants des émigrés, hors métissage, c'est-à-dire des Hollandais qui sont restés à se marier entre eux sans avoir à se métisser avec les populations locales. Eh bien, on s'est aperçu que les systèmes HLA des descendants des émigrés n'étaient plus les mêmes que ceux des Hollandais d'aujourd'hui. Et il y avait en particulier un groupe qui avait disparu, je ne me souviens plus lequel, c'est un B quelque chose, et qui était probablement un groupe qui ne leur a pas permis de résister à la typhoïde et à la fièvre jaune. Vous voyez, alors que ceux qui ne l'avaient pas, eh bien, ont pu résister. Alors vous avez ici quelques exemples aussi que je vous ai mis. Bon, les groupes HLA sont désignés par des lettres, hein, A, B, C, et puis DP, DQ, DR. Eh bien, vous voyez que DR3, DR4, il y a un risque de diabète. DR7, faible répondeur au vaccin hépatite B. Si vous êtes B15, vous avez une faible réponse à la rubéole. Si vous êtes B13 ou B44, vous n'allez pas répondre au vaccin de la rougeole. Si vous êtes B53, par exemple, vous allez résister au paludisme. Bien là encore, ça montre bien l'importance du système HLA, parce que B53 est très fréquent dans les populations noires d'Afrique, alors que dans les populations européennes, il y a 1% des Européens qui ont le B53. Et c'est la raison pour laquelle on est plus sensible au paludisme que les Africains. A1 et B8 DR3, alors là, ça c'est le risque majeur, risque d'auto-immunité. On va parler des maladies auto-immunes tout à l'heure. Eh bien, si vous allez, malheureusement, vous avez comme type HLA A1 B8 DR3, vous êtes exposé plus que d'autres à faire une maladie auto-immune. Bien entendu, pour une maladie auto-immune, il faut un facteur déclenchant. Et ce facteur déclenchant peut être une vaccination, comme vous allez le voir. A3 B7 DR2, même chose pour le risque de sclérose en plaques. Alors, quels sont les inconvénients? À part cet inconvénient majeur, encore une fois, qui fait que nous sommes tous différents. Eh bien, suite aux vaccinations, vous avez un développement des allergies et des maladies auto-immunes. Développement des allergies, toute vaccination peut provoquer une réaction allergique majeure. C'est ce qu'on appelle la réaction anaphylactique. C'est un phénomène qui est rare, heureusement, mais c'est un phénomène parfaitement imprévisible. Il peut se produire après n'importe quelle vaccination dans les minutes ou heures qui suivent la vaccination. C'est la raison pour laquelle il faut avoir sur place, là où se produit la vaccination, le matériel permettant et les produits médicamenteux pour contrer une réaction anaphylactique. On sait très bien le faire, mais il faut avoir tout ce qu'il faut sur place pour contrer la réaction. Dans ces réactions allergiques, le rôle prépondérant vient de la coqueluche, hein, de la composante coqueluche. Et puis éventuellement, le rôle allergisant de l'aluminium, dont on a beaucoup parlé récemment. Il y a une étude qui a montré, bon, parmi les réactions allergiques, il y a évidemment l'asthme, hein, et une étude anglaise, enfin, docteur Audan était un médecin français, mais qui est parti vivre en Grande-Bretagne, et qui a comparé deux populations d'enfants nourris au sein, les uns vaccinés contre la coqueluche, les autres pas. Qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, chez ceux qui étaient vaccinés, il y avait moins de coqueluche, c'était quand même le but recherché. Mais par contre, chez les non-vaccinés, qui ont eu un peu plus de coqueluche que les autres, il y avait 5 fois moins d'asthme, 2 fois moins d'otite, et s'il y avait des séjours hospitaliers, ils étaient moins nombreux et moins longs. En gros, ça veut dire que les enfants qui n'ont pas été vaccinés n'ont peut-être pas été protégés contre la coqueluche, mais ils étaient en meilleure santé. Développement des maladies auto-immunes. Eh bien, le professeur Hanslick, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui disait qu'en 2003, on n'avait aucune idée du nombre de dégâts provoqués par l'hépatite B en France, eh bien, ce même professeur a déclaré ceci dans une revue médicale, la revue de médecine interne. De multiples cas de maladies immunologiques déclenchés par la vaccination sont rapportés dans la littérature, impliquant surtout les vaccins de la grippe, de l'hépatite B, mais aussi du tétanos ou d'autres vaccins, en gros, pratiquement tous. Il est impossible d'estimer la fréquence de ces accidents en raison de leur déclaration inconstante, on ne les recherche pas, on ne risque pas de les trouver, et de la quasi-absence d'enquête épidémiologique spécifique. Et c'est moi qui ai mis en rouge, devant une maladie immunologique, l'enquête étiologique, c'est-à-dire la recherche des causes de cette maladie, doit systématiquement rechercher l'administration d'un vaccin dans le mois précédant le début des troubles. C'est très clair. Ça veut bien dire que si vous développez une maladie auto-immune, il faut se préoccuper de savoir si vous avez eu une vaccination dans le mois qui précède. Je dirais même plusieurs mois avant. Alors, quels sont les mécanismes de développement ? Je vais être obligé de passer assez rapidement. Développement de complexe immun, ça veut dire quoi? Quand on vous injecte un vaccin, il y a dedans une molécule étrangère qu'on appelle un antigène. Vous allez développer des anticorps qui vont se combiner à l'antigène. Ça fait un complexe qu'on appelle un complexe immun. Ça, c'est microscopique, bien entendu, hein, ça ne se voit pas au microscope. Mais malgré qu'ils soient tous microscopiques, ils sont plus ou moins petits ou plus ou moins gros. S'ils sont assez gros, eh bien, il y a des éboueurs dans l'organisme qu'on appelle les macrophages qui captent ça sans problème, les digèrent, ils les éliminent, on n'en parle plus. Par contre, si les complexes antigènes anticorps sont petits, si les anticorps ne sont pas de bonne qualité, eh bien, ces complexes vont circuler. Mais un jour, ils vont finir par se déposer. Et là où ils se déposent, ils déclenchent une réaction inflammatoire brutale qui entraîne la destruction des tissus. Alors, ça peut être la destruction du filtre rénal, hein, vous aurez une glomérulonéphrite. Ça peut être une destruction de l'enveloppe protectrice des fibres nerveuses, la myéline, et vous aurez une réaction, due à la destruction de la myéline. Et puis, ça se peut porter aux articulations, etc. Ça peut se porter sur d'autres organes, bien entendu. Une autre cause, c'est l'émission de molécules HLA2. Alors là, bon, sans entrer trop dans les détails, je vous ai dit que le molécule HLA, c'est notre identité. Et il y en a deux catégories de molécules, la classe 1 et la classe 2, facile à retenir. La classe 1, elle existe sur toutes nos cellules. Toutes les cellules en produisent. Donc le système immunitaire, il les connaît, puisqu'il y en a partout. Par contre, les molécules de classe 2 n'existent normalement que sur les cellules mises en cause par la réaction immunitaire. Les autres cellules du corps, bien qu'elles aient l'information pour le faire, puisque toutes les cellules ont la même information, elles ne les expriment pas. Mais, au cours de la réaction immunitaire, il y a une molécule qui apparaît qu'on appelle l'interféron gamma. Et cet interféron gamma, il a une fâcheuse propriété chez les individus prédisposés, bien entendu, à faire exprimer des molécules HLA2 par des cellules qui normalement ne devraient pas le faire. Alors évidemment, le système immunitaire, quand il patrouille, il voit, oh, voilà des molécules, des cellules qui ne devraient pas afficher HLA2, c'est pas normal, je détruis. Et si la destruction porte sur les cellules pancréatiques qui produisent l'insuline, eh bien vous devenez diabétique. C'est l'une des origines du diabète, qu'on appelle le diabète insulino-dépendant, c'est-à-dire le diabète de type 1, qui est un diabète qui atteint les jeunes. Hein, ne pas confondre avec le diabète de type 2, qui est le diabète qu'on rencontre chez les gens obèses. Et puis, une autre source de maladie auto-immune, c'est lorsque l'antigène qu'on vous injecte présente sur une portion de sa molécule une identité avec des molécules de l'organisme. Alors l'organisme, vous lui injectez un corps étranger, il développe des anticorps, il développe une réaction immunitaire d'une façon générale, mais quand il voit dans l'organisme des molécules qui ressemblent à ce que vous lui avez injecté, ben, il va détruire aussi les molécules de l'organisme. Et c'est une cause de réaction auto-immune. Alors, vaccination et maladie auto-immune. Quelques exemples. Vaccination contre les oreillons et diabète de type 1, je viens de vous le dire. Vaccination contre la rougeole et certaines maladies intestinales. Vous avez peut-être entendu parler de la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Vaccin contre l'hépatite B. Alors là, il y a toute une série de maladies auto-immunes. Maladies neurologiques, bien sûr. La maladie de Charcot, la sclérose en plaques et puis bien d'autres. Le lupus érythémateux disséminé, le diabète insulino-dépendant, etc. Et là, pour bien vous montrer encore l'importance du système HLA, je vous cite encore une anecdote que j'ai malheureusement vécue, c'est pas moi qui la vis, mais que j'ai apprise de ceux qui la vivent. Un jour, je suis passé chez mon éditeur et j'allais chercher des bouquins et je rencontre un magasinier, on commence à discuter. « Ah, c'est vous qui avez écrit ce bouquin sur les vaccinations ?»« Ah ben moi, figurez-vous, il arrive une drôle de malheur dans notre famille. Avec ma femme et nos deux enfants, nous sommes tous les quatre faits vacciner contre l'hépatite B. » Ah oui, très bien, et alors ? Ben alors, ma femme, ça s'est bien passé, elle n'a rien. Moi, le mari, j'ai une anémie de Birmer. Mon fils a une sclérose en plaques et ma fille a une thyroïdite d'Hashimoto. Trois maladies auto-immunes. Et avec une communauté, ben oui, les enfants ont hérité pour partie du HLA de la mère et une partie de l'HLA du père. Mais comme les systèmes HLA, si vous voulez, il n'y a pas de dominance, c'est-à-dire que tous les gènes que vous recevez s'expriment, ben, les gènes de la mère se sont exprimés, mais ils n'avaient pas les gènes protecteurs. Par contre, les gènes du père se sont exprimés et eux, ils n'étaient pas protecteurs. C'est pour ça qu'ils ont déclenché une réaction immunitaire. Une réaction auto-immune. Pour le diabète encore, très intéressant. Ça, c'est l'évolution du diabète en Finlande. Diabète juvénile, hein, chez les enfants de moins de 15 ans. La Finlande est le pays d'Europe le plus vacciné. Hein, et qui fait l'objet d'ailleurs du plus grand nombre d'essais vaccinaux également. J'ai demandé un jour la raison. Eh bien, on m'a répondu, c'est tout simplement parce que pendant des décennies, la Finlande a servi de laboratoire pour l'Union soviétique. La Finlande a évidemment des frontières communes avec les pays baltes qui faisaient partie de l'URSS à l'époque, et beaucoup de, des expériences vaccinales ont été faites en Finlande. Eh bien, vous voyez que le Finlande, le nouveau cas de diabète qui était de 12 dans les années 50 est passé à 60 ici en 2006. 60. Ça a été multiplié par 5 en l'espace de 50 ans. Alors évidemment, autrefois, les diabétiques mouraient souvent avant d'avoir eu une descendance. Alors maintenant, depuis longtemps qu'on soigne les diabétiques, naturellement, ils mènent une vie plus normale et beaucoup ont une descendance. Alors, on pourrait évidemment attribuer cette augmentation du diabète au fait qu'ils ont transmis leur fragilité génétique à leur descendance. Mais ça n'est pas suffisant pour expliquer cette explosion du diabète. Vous voyez, il faut en rechercher la cause. Eh bien, vous me direz, en France, qu'est-ce qu'il en est ? Puisque malheureusement, je me repose tout mon discours sur la France, mais je crois que ce qui est valable pour la France l'est aussi pour vous. Vous êtes quand même beaucoup trop près de chez nous pour y échapper. Eh bien, en France, on a tenu un registre pour recenser les nouveaux cas de diabète. Ça a duré 10 ans, vous voyez, depuis 88 jusqu'à fin 97. Puis ensuite, comme on n'avait plus d'argent, on a fermé le registre. Alors, en cassant le thermomètre, évidemment, on était tranquille. On n'avait plus la fièvre. Mais néanmoins, pendant 10 ans, on a trouvé des choses intéressantes. Voilà ce qu'on a trouvé. Chez les moins de 20 ans, on considérait qu'on est jeune quand même au moins jusqu'à 20 ans, mais chez les moins de 20 ans, il y a eu une augmentation de 29% du diabète insulino-dépendant. Mais pire encore, chez les enfants de 0 à 4 ans, c'est-à-dire chez les nourrissons, hein, on est nourrissons jusqu'à 2 ans, et chez les jeunes enfants, 3 ans, 4 ans, eh bien, chez les nourrissons et les enfants, les très jeunes enfants, l'incidence du diabète pour 100 000 habitants a augmenté de près de 80%. Or, cette période de 0 à 4 ans, c'est là où l'on bombarde les nourrissons et les jeunes enfants de vaccins, de rappels, etc. en série. C'est énorme le nombre de stimulations antigéniques. Bon, pendant un certain temps, ça a été 38, mais en France, tout au moins, on doit approcher certainement des 50 maintenant. Et on ne se pose pas de questions. Alors qu'il y a des publications médicales qui rapportent, comme je vous l'ai montré dans des diapositives précédentes, que le diabète insulino-dépendant peut se déclencher à partir de toute une série de vaccinations, à partir de l'hémophilus HIB, à partir de l'hépatite B, à partir des oreillons. Hein. Et l'étude qui a été faite en Finlande, hein, les auteurs disent clairement que cette augmentation dramatique du diabète, en particulier dans les années 85-87, a coïncidé avec la mise sur le marché du vaccin ROR, c'est-à-dire rougeole, oreillon, rubéole, hein, comme par hasard. Déplacement de l'âge des maladies infantiles, ça c'est aussi un inconvénient, un risque de la vaccination. Des maladies qui autrefois atteignaient les enfants de 5 à 10 ans, en gros, eh bien, deviennent aujourd'hui des maladies de très jeunes nourrissons, de quelques mois, et des maladies d'adultes de 25-30 ans. À quoi c'est dû ? Aux vaccinations. Pourquoi ? Parce que l'immunité acquise après vaccination est plus faible et moins durable que celle qui résulte de la maladie. Elle n'est pas entretenue par des rappels naturels en raison de la diminution de circulation du virus sauvage. En effet, réfléchissez. Une minute, même moins d'une minute. Vous vaccinez 50% de la population. On va se mettre dans les conditions les plus favorables. Le vaccin est efficace à 100%. Les 50% de gens vaccinés ne feront pas la rougeole. Très bien. Les 50% qui ne sont pas vaccinés, eux, ils vont continuer à avoir la rougeole, les pauvres. Seulement, comme les populations sont mélangées, les vaccinés et les non-vaccinés vont se croiser. Donc les vaccinés vont être exposés à la circulation du virus sauvage. Ils ne feront pas la rougeole parce qu'ils sont momentanément protégés, mais ça va constituer pour eux un rappel dont ils n'ont pas conscience et qui va leur donner une immunité définitive. Maintenant, au lieu de vacciner 50%, vous en vaccinez 90%. C'est à peu près le niveau actuel. Ben, la circulation du virus sauvage se fait moins bien, évidemment. Il y a beaucoup moins de gens qui vont faire la rougeole. Donc il y a beaucoup moins de vaccinés qui sont temporairement protégés, qui vont rencontrer le virus sauvage. Donc, au bout de 15-20 ans, l'immunité vaccinale, elle aura chuté. L'immunité n'aura pas été renforcée par un rappel. Donc, les adultes arrivent, ils n'ont plus d'immunité. Donc, ils font la rougeole s'ils rencontrent le virus sauvage. Et parmi les adultes, il y a les femmes en âge d'avoir des enfants qui ne transmettent plus à leur nourrisson de protection. Et un nourrisson de 3-4 mois peut faire la rougeole. Et dans les deux cas, les nourrissons et les adultes, la rougeole est beaucoup plus grave. Donc on a tout gagné. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous raconter. Des risques augmentés, voici en effet ce qu'a montré une étude britannique. La létalité, alors la létalité c'est le nombre de morts, il ne faut pas confondre la létalité et la mortalité. La mortalité c'est le nombre de décès dans une population quelconque, qu'elle soit malade ou pas malade. On dit en général le nombre de morts pour 100 000 habitants. Bon, ça c'est la mortalité. La létalité c'est le nombre de morts parmi les malades, uniquement parmi les malades. Eh bien cette létalité était autrefois minimale entre 5 et 9 ans, qui était l'âge habituel de la rougeole en gros, hein. Elle est 4 fois plus élevée chez les nourrissons de moins d'un an et 8 fois et demi plus élevée après 25 ans. C'est vous dire si la rougeole est beaucoup plus grave. Déplacement de l'équilibre écologique microbien. En effet, dans les populations de microbes, que ce soit des bactéries ou des virus, il y a un équilibre, hein, comme il y a un équilibre dans les populations animales, végétales, etc. Et vous savez très bien, quand on touche à un équilibre, eh bien, la nature qui a horreur du vide, elle compense ce que vous avez fait. C'est-à-dire que des espèces que vous allez éliminer sont remplacées par d'autres. Eh bien, ça se passe exactement de la même façon dans le monde microbien. Voici quelques exemples, on ne va pas détailler beaucoup. Mais par exemple, les hémophilus, on vaccine comme un phyllus d'un type B. Certes, très bien. Seulement, il y a A, B, C, D, E, F. Et on sait aujourd'hui que les B ont régressé, c'est ce qu'on cherchait. Mais c'est remplacé notamment par les F qui ont les mêmes inconvénients que les B. Le Prévenar, alors ça c'est une belle histoire aussi. C'est un vaccin qui est censé protéger contre les pneumocoques et également contre les otites de l'oreille moyenne. Bon, chez les nourrissons. L'ennui c'est que les pneumocoques, il y en a 90 souches différentes. Alors on a fait un premier vaccin qu'on a appelé le Prévenar tout court, mais qui ne contenait que 7 souches. On a pris les souches les plus fréquentes, c'est quand même logique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les souches mises dans le vaccin ont fait régresser les souches correspondantes. Encore une fois, comme la nature a horreur du vide et qu'il y en avait 83 qui attendaient à la porte, ben la place a été prise par d'autres. Et effectivement, ce premier prévenard qui était un prévenard 7 a été remplacé par un prévenard 13. Mais dès maintenant, on a trouvé également que le prévenard 13 ne protège pas contre toutes les pneumonies. Donc on va reculer comme ça, on va peut-être faire après un prévenard 20, un prévenard 25, et on peut aller comme ça très loin. Même chose pour les méningocoques, alors qu'ils sont responsables de méningites graves, bien entendu, dont il existe 3 formes principales, A, B et C. A, c'est surtout en Afrique, B et C, c'est en Europe, mais dans nos pays, c'est le B qui domine. Or, les vaccins qui sont sur le marché sont des vaccins contre le C, qui ne protègent pas évidemment contre le B. Parmi les virus, c'est la même chose. On a vacciné contre la polio. Bon, les virus polio sont les virus intestinaux. Mais dans l'intestin, vous avez une multitude de virus différents. En particulier, des virus qu'on appelle les virus Coxsackie, les virus Echo et les enterovirus. Bon, tous ces virus sont en équilibre avec les virus polio. La vaccination polio a fait régresser les virus correspondants. Très bien. L'ennui, c'est que la place a été prise par d'autres, en particulier par les virus Coxsackie. Et les virus Coxsackie, ils ont un double inconvénient. Déjà, ils sont capables de provoquer des paralysies exactement comme les virus polio proprement dit. Et d'autre part, ils sont suspectés de pouvoir déclencher des cas de diabète. Alors, est-ce que, parmi l'augmentation du diabète qu'on a vu tout à l'heure chez les nourrissons et les jeunes enfants, est-ce qu'il y a la part des oreillons, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la part du vaccin contre la polio? Alors si la polio a régressé très bien, on considère que l'Inde actuellement, qui a été très très atteinte par la polio, est indemne de polio. Très bien. Alors, moi je dis bravo. L'ennui, c'est qu'il y a maintenant dans le monde une explosion de maladies qu'on appelle des paralysies flasques aiguës. C'est quoi? Bien, ce sont des maladies qui ont exactement les mêmes symptômes que la polio, mais qui ne sont pas dues à des virus polio, mais à d'autres virus intestinaux. Peut-être les virus Coxsackie, d'autres virus. Ce qui fait que, on a là encore la nature horreur du vide. Ce que les virus polio ne peuvent plus faire, c'est fait par d'autres virus. Et c'est une véritable explosion. Voici les données de l'OMS qui montrent l'explosion de ces maladies depuis 1996 jusqu'à 2012. Bon, j'ai trouvé les 2013, je ne les ai pas rajoutés sur le graphique, mais ça se situerait à peu près ici. Qu'est-ce que vous constatez? Une augmentation considérable. Actuellement, on est à plus de 110 000 cas de paralysie flasque aiguë dans le monde. 110 000. Et le pays le plus atteint par la paralysie flasque aiguë, avec 60 000 cas par an, vous êtes trouvé, c'est l'Inde. Voyez. Autrement dit, grâce aux vaccinations, on a fait disparaître la polio, mais on a transformé ça en paralysie flasque aiguë. Alors ça, vous voyez que les risques ne sont pas négligeables quand même. Alors si vous faites le rapport bénéfice-risque, bénéfice au numérateur, pas très élevé, et dénominateur, les risques particulièrement importants, si vous vous rappelez des fractions en arithmétique, ça fait un résultat qui n'est pas très brillant. Le rapport coût-bénéfice, ça veut dire quoi? Que nous coûte la vaccination? Prix du vaccin, prix de la visite médicale, prix du suivi, notamment des effets secondaires. Et bénéfice, bénéfice, si on vaccine, si on se met dans les conditions les plus favorables, on va empêcher certaines maladies d'apparaître, on n'aura pas à les traiter, donc c'est un bénéfice. Eh bien, ça a été rarement calculé. Mais ça a été fait pour deux maladies, en particulier pour l'hépatite B. Et ce qui est scandaleux, je pèse mes mots, c'est scandaleux. Le résultat de l'étude que je vais vous montrer a été publié en 1995, mais on le connaissait, les résultats, en 1994. Et en 1994-95, c'est la grande campagne de vaccination où la moitié de la population française a été vaccinée contre l'hépatite B, c'est-à-dire entre 25 et 30 millions de personnes. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Le coût de la vaccination généralisée a été mis en balance avec le coût du traitement des hépatites évitées, c'est ce que je viens de vous dire. On a considéré quatre types de populations parce que tout le monde n'est pas exposé de la même façon à l'hépatite B. Pour la population générale, très peu exposée. Pourquoi très peu exposée? Parce que l'hépatite B, la prévalence de l'hépatite B dans la population est très variable dans le monde. La France, enfin tous les pays d'Europe occidentale, la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, etc., ainsi que les États-Unis et l'Australie sont les pays du monde les moins atteints par l'hépatite B. Donc des pays de faible prévalence. Il y en a plus en Europe centrale, en Afrique, etc., et il y en a beaucoup en Asie. Bon, mais la vaccination chez nous et chez vous, en Hollande, au Luxembourg, en Belgique, elle coûte 20 fois plus cher que le traitement des hépatites évitées. Et on le savait quand ça a été mis en place. Pour les hommes de 15 à 40 ans qui, pour des raisons hormonales, sont un peu plus exposés que le reste de la population, ça coûte encore 5 fois plus cher quand même. Le coût est équivalent pour les homosexuels masculins. On vaccine, on fait un bénéfice. On ne vaccine pas, on a l'hépatite B, ça a le même coût. La vaccination n'est rentable que pour les toxicomanes par voie intraveineuse. Ceux qui se droguent, bien sûr, par voie intraveineuse. Alors vous voyez que tout ça, on le savait par cette étude qui a été publiée en 1995, mais dont les résultats, évidemment, étaient connus avant. Et ça a été publié en plus dans une publication de langue française. La vaccination contre les papillomavirus, c'est-à-dire ces virus responsables du cancer du col de l'utérus. Eh bien, c'est un coût exorbitant pour la santé publique. Pour éviter un cancer du col contre les virus présents dans les deux vaccins Gardasil et Cervarix. Le calcul a été fait par un professeur de médecine de Bordeaux. Pour éviter un cancer, si le vaccin protège toute la vie et est efficace à 95%, ce qui est peu probable. Il faut vacciner 324 femmes. Mais, comme c'est probable, si la protection diminue seulement de 3% par an, et c'est vraisemblable, c'est même certainement beaucoup plus, il faudra vacciner 9080 femmes. Si vous faites le coût de l'opération, c'est-à-dire 3 injections, la visite médicale, le prix du vaccin, ça représente un coût de plus de 4 millions d'euros pour éviter un cancer du col. Alors quand on sait que le cancer du col peut être évité par un suivi des femmes sur le plan gynécologique, quand on sait que le cancer du col se développe après 3 stades préliminaires de lésions précoces qui peuvent être traitées, soignées, soit par voie médicamenteuse, soit par voie chirurgicale, hein, eh bien, on se dit que c'est un véritable scandale. D'autant, et l'industrie pharmaceutique le dit clairement, que malgré la vaccination, il faut quand même que les femmes se fassent suivre sur le plan gynécologique. Donc, c'est une dépense vraiment inutile. Contre les pneumocoques, ça, c'était publié dans la revue Prescrire, qui est une revue très aimée des généralistes, des médecins généralistes, parce que c'est une revue qui ne comporte aucune publicité de l'industrie pharmaceutique. Eh bien, dans cette revue, on dit que pour éviter une infection pour les pneumocoques par le Prevnar, le fameux vaccin dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour éviter une infection, ça coûte 150 000 euros. Vous multipliez ça par le nombre de gosses qui sont vaccinés contre le Prevnar, vous voyez ce que ça nous coûte. La stratégie du cocooning, alors ça c'est très à la mode maintenant, s'il y a de jeunes parents parmi vous, ben peut-être votre médecin généraliste vous a dit « Ah, vous avez des jeunes enfants, ou vous allez avoir des jeunes enfants, faites-vous un rappel de coqueluche, parce que c'est vous qui allez contaminer votre nourrisson. » Je vous signale, entre parenthèses, que la réciproque est vraie aussi, on va vacciner maintenant les jeunes enfants contre la grippe pour pas qu'ils contaminent les vieux. Bon. Alors, c'est la stratégie du cocooning. Eh bien, c'est une publication canadienne qui a été publiée en 2012. Vous voyez, c'est récent. Ces chercheurs ont montré que pour éviter une hospitalisation, une admission aux soins intensifs, donc un peu plus grave, ou un décès, eh bien, il faut vacciner respectivement 10 000, 100 000 ou 1 million de personnes. Alors vous imaginez le coût que ça représente pour la santé publique. Alors, si le bénéfice-risque est faible, si le rapport coût-bénéfice est élevé, pourquoi continuer dans cette stratégie du tout vaccinal? Bien, la réponse est que le vaccin est un marché. C'est tellement vrai qu'en 1992, il y a un peu plus de 20 ans, des experts se sont réunis à Paris, au Centre international de l'enfance, qui se trouve dans le bois de Boulogne, près de Paris. Et le rapport a été publié sous ce titre, Le marché du vaccin. Alors, c'était fait pour étudier l'avenir de la vaccination en Afrique, parce que c'est quand même un vivarium, je dirais, important pour l'industrie pharmaceutique, mais c'est tout à fait généralisable, comme vous allez le voir, à l'ensemble des pays. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce rapport? Ben déjà, pour avoir une première idée, voici ce qui est dit dans une revue de pédiatrie en 1998. Sauf exception, les objectifs des essais vaccinaux sont fixés par le promoteur et répondent aux exigences de développement d'industrie pharmaceutique. C'est déjà un bon préambule. Mais dans le petit livre dont je vous ai montré la couverture tout à l'heure, bien voici ce qu'on lit. Je vous donne deux ou trois citations. Le management des firmes pharmaceutiques, alors entre guillemets, c'est le texte du bouquin, était auparavant plutôt scientifique et médical, et il est aujourd'hui de type marketing et de recherche de rentabilité maximale. On n'est pas plus clair. Et un peu plus loin, le rôle des gouvernements se cantonne maintenant au financement d'une partie de la recherche et à la subvention du prix du vaccin, laissant toute la partie intermédiaire à l'industrie pharmaceutique, et en particulier le choix de décider si un vaccin doit être produit et commercialisé ou non. Où est l'intérêt de la santé publique dans tout ça? On a fait un vaccin contre l'hépatite B sans savoir quelle était l'importance de l'hépatite B dans le pays. On met sur le marché deux vaccins contre les papillomavirus alors que on sait qu'on peut lutter contre les papillomavirus simplement par le suivi gynécologique des femmes. Ah ben non, ça suffit pas. Il faut vacciner. Et puis maintenant, faut pas les vacciner à 14 ans, les fillettes. Faut les vacciner à 11 ans. Et l'Académie de médecine veut qu'on les vaccine à partir de 9 ans. Et elle veut aussi qu'on vaccine les garçons. Il y a des études. Dites-vous bien que ça va venir. Ça a été comme le ROR. Le ROR, protéger la rubéole pour les fillettes, c'est bien, dans la mesure où la rubéole est dangereuse pour une femme enceinte, bien sûr, mais pour les garçons, ça n'a aucun intérêt. Les oreillons, c'est surtout valable pour les garçons. Bon, mais les papillomavirus, ah, mais on vous dira si, c'est parce que les garçons, ils peuvent contaminer les filles. Donc, on va généraliser la vaccination. Je pense qu'il faut s'y attendre. Alors, quels sont les inconvénients que l'on peut encore faire au vaccin? Alors, celui-ci, c'est en dehors du rapport coût-bénéfice. Eh bien, c'est que les vaccins sont insuffisamment évalués et c'est franchement scandaleux. Il n'y a pas d'étude de pharmacocinétique. C'est un mot qui ne vous dit sans doute pas grand-chose. La pharmacocinétique, la cinétique, c'est le mouvement. Et c'est tout simplement le suivi du produit qu'on vous a injecté dans l'organisme. Autrement dit, ce qu'on vient de vous injecter, qu'est-ce que ça devient ? Est-ce que c'est éliminé tout de suite ? Est-ce que c'est fixé dans certains organes ? Est-ce que c'est éliminé par le foie, par les reins ? Est-ce que c'est transformé dans l'organisme ? Est-ce que les produits de transformation sont dangereux ou pas, etc. Eh bien, ça, c'est obligatoire pour tous les médicaments, mais pas pour les vaccins. Si vous cherchez sur Internet, avec Google, vous mettez pharmacocinétique vaccin prévenard, vous allez, en faisant défiler un petit peu ce qui va se présenter, vous aurez une ligne pharmacocinétique. Cette recherche n'est pas requise pour la mise au point des vaccins. Donc, il n'y a pas de recherche pharmacocinétique. Mais si on l'avait fait, on aurait su que, puisqu'il y a de l'aluminium dans presque tous les vaccins, du moins dans beaucoup d'entre eux, eh bien, on aurait su que l'aluminium, il peut rester fixé déjà à l'endroit où vous avez fait la piqûre, et puis surtout, il peut se balader dans le corps et puis rentrer dans le cerveau. Eh bien oui, ça, on ne le savait pas, mais on le sait maintenant. Vous voyez ? Pas d'études pharmacocinétiques, pardon. Pas d'études de mutagénèse, de cancérogénèse et de génotoxicité. Là encore, ce n'est pas requis pour la mise au point des vaccins. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas scandaleux, par exemple pour le Gardasil ou le Cervarix, des vaccins qui sont destinés aux voies génitales des fillettes, qu'on ne cherche pas de problèmes de cancérogénèse ? Et ceci, vous savez ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle l'histoire du Distilbène. Ah, je ne sais pas, les trop jeunes parmi vous ne peuvent pas s'en rappeler, mais dans les années 60-70, le Distilbène était un médicament, c'est une hormone de synthèse, hein, qui était censée éviter les fausses couches. Il semblerait d'ailleurs que l'efficacité n'était pas vraiment au point, mais enfin, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est que les femmes qui ont reçu du Distilbène pour éventuellement les protéger des fausses couches, eh bien, un certain nombre d'entre elles ont développé par la suite des cancers des voies génitales. Cancer de l'utérus, cancer du vagin, etc. Bon, déjà, c'est grave. Mais encore plus grave, si j'ose dire, c'est que les filles de ces femmes qui ont reçu du Distilbène ont aussi des difficultés à mener à bien une grossesse. Et ont aussi développé des cancers des voies génitales. Et aujourd'hui, eh bien, on sait que les petits-enfants de ces femmes présentent des anomalies génitales, aussi bien les fillettes que les garçons. Autrement dit, ce sont maintenant des enfants dont la grand-mère a pris un médicament toxique pour les voies génitales femelles, des femmes, qui sont atteints soit de malformations génitales, soit éventuellement de développement de cancer, alors qu'ils n'ont jamais pris ce médicament. Donc vous voyez, ça c'est un problème excessivement grave. Alors quand on sait que c'est valable, également pour le Gardasil et le Cervarix, il n'y a pas d'étude de cancérogénèse. Qu'est-ce que ça va devenir dans 15, 20 ans, 25 ans ? Il y a un autre problème qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces vaccins, en particulier dans le Gardasil, dans les vaccins, il faut mettre un conservateur pour empêcher le développement d'éléments parasites, bactéries, champignons, etc. Eh bien, le conservateur du Gardasil, si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est du borax. Le borax, c'est un produit chimique, c'est du borate de soude. Bon, au passage, c'est un des produits de la composante qui compose la morora. Mais enfin, passons. Mais le borax, c'est un produit très réglementé sur le plan européen. Il ne doit être transporté que dans des récipients portant un logo à tête de mort avec deux données chiffrées qui sont R60 et R61. Alors en clair, ça veut dire quoi ? Si vous cherchez sur Internet, vous le saurez. R60, ça veut dire « peut altérer la fertilité ». Tiens donc. R61 peut provoquer des troubles et du développement de l'embryon. Autrement dit, voilà un vaccin. Non seulement il n'y a pas eu d'études de cancérogénèse, de génotoxicité, etc., mais en plus, on lui met un conservateur qui peut provoquer des dégâts chez la femme et éventuellement au cours de la grossesse. C'est vraiment scandaleux. Pas de vrai placebo, ça veut dire quoi ? Normalement, un vaccin doit être testé contre un placebo, c'est-à-dire une substance neutre. Par exemple, un liquide physiologique, tout simplement, comparable dans sa composition au plasma sanguin, ça, c'est véritablement un placebo. Or, en général, un nouveau vaccin est testé parallèlement à un autre vaccin dont on connaît déjà les effets secondaires. Alors, Si le nouveau vaccin n'en fait pas plus que le précédent qu'on connaît déjà, eh ben il est très bien que toléré, donc pas de problème. Alors qu'on ne l'a pas testé contre un véritable placebo. La pharmacovigilance, ça c'est théoriquement ce qu'on appelle la phase 4. Hein, la mise sur le marché, c'est la fin de la phase 3 des recherches. Et la phase 4, c'est la pharmacovigilance. Or, la pharmacovigilance, c'est valable aussi bien pour les médicaments que pour les vaccins. Elle ne recense que 1 à 10% des accidents. Alors, je vous signale quand même que pour les vaccins, rien que pour le vaccin Gardasil, on en est actuellement, rien qu'aux États-Unis, à plus de 140 morts. 140 morts. Ça veut dire que c'est au minimum 140, mais que c'est peut-être entre 140 et 1400. Et même plus que ça. Si c'est 10%, oui. C'est absolument énorme. Alors, tout ce que je viens de vous raconter, c'est ce que j'ai donc écrit dans ce bouquin. Alors, c'est le deuxième, le premier que certains d'entre vous connaissent peut-être. Bon, c'est un pavé qui peut en décourager certains, qui est un petit peu, je dirais, académique, un peu technique. Il y a un ou deux chapitres bon, qui sont un petit peu difficiles à lire si vous n'avez pas de souvenirs très précis des cours de biologie que vous avez pu avoir au lycée. Alors, comme on m'a fait ce reproche, que je comprends, j'ai donc écrit un deuxième, qui est celui-ci. Alors, vous y retrouverez un certain nombre de points communs, mais ils sont présentés d'une façon tout à fait différente. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Et ce que je veux vous recommander pour, bon, comme point final, c'est surtout de vous informer. Moi, je ne vous dis pas, je ne vais pas prendre les noms à la sortie, vous allez vous faire vacciner, vous n'allez pas vous faire vacciner. Ce n'est pas mon problème. Hein. Quelquefois, je commence ma conférence en disant, si vous êtes venu pour me poser la question, j'ai des petits-enfants, est-ce que je dois les faire vacciner? J'ai envie de répondre froidement et brutalement, mais je ne le fais pas quand même, aussi brutalement. Ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Votre problème, c'est de vous informer. À partir de l'information que vous recevez de votre médecin généraliste, de votre pédiatre, de ce que vous avez pu lire, etc., eh bien, vous vous formez votre point de vue. Et vous prenez votre décision et vous l'assumez. Vous avez évidemment compris qu'en ce qui me concerne, sachant ce que je sais aujourd'hui, il y a belle lurette que je n'ai pas recours à la vaccination. Hein. J'ai été, je dirais malheureusement, mais enfin heureusement sans conséquences apparentes, vacciné au service militaire, même si j'ai échappé, bon, pour diverses raisons, au rappel de la variole, et puis ça, bon, mais depuis plus de 50 ans, je n'ai jamais reçu aucun vaccin. Voilà, alors, ça l'a dit, vous ferez ce que vous voulez, hein, ce que vous aurez décidé. Voilà.